Bonjour, je m'appelle Anne-France Dautreville, c'est Pop 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 et Pop Pop Pop, c'est parti!
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Les voyages forment la jeunesse, disent-ils. Entre parenthèses, il arrive qu'ils la déforment aussi. Si l'on en croit la nouvelle silhouette de Ghislain Fontanus, notre réalisateur, après une semaine de régime couscous-boulette en Tunisie. Mais le plus souvent, oui, ils sont formateurs. Prenez par exemple un jeune d'une vingtaine d'années. Plongez-le dans l'eau, plongez-le dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud, mais ça fera surtout un jeune de plus aux urgences à l'hôpital. Alors que si vous l'emmenez faire un petit voyage spatio-temporel dans le New York des années 70, en suivant l'exemple de notre invité Chantal Thomas, vous obtiendrez une femme de lettres aussi passionnée par le 18e siècle que par le Velvet Underground, autrement dit, à mes yeux, une femme idéale, le croisement de la plus belle langue qui fut et de l'électricité dans laquelle certains d'entre nous, privilèges de l'âge, eurent la chance de baigner, même si ce n'est pas Claude François qui me contredira, il est imprudent de se baigner près d'une source électrique. New York, New York, l'âge d'or d'un New York perdu, dont il est légitime d'avoir le blues, voilà ce qui va donc nous occuper aujourd'hui en compagnie de Chantal Thomas, que nous avons donc la joie de recevoir.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paule.
Et bonjour Chantal Thomas.
Et bonjour.
Et bienvenue dans Pop, pop, pop. À mes côtés, celle qui pensait que nous recevions aujourd'hui la créatrice de la marque de lingerie, du même nom, et qui du coup a sorti le grand jeu, guêpière, porte-jartel, soutien-gorge en plume d'autruche. Bonjour Charline Roux.
You wish.
On va faire
bonjour.
L'émission comme si de rien n'était. Au menu également de Pop Pop Pop, le retour de notre pop prescripteur littéraire, Laurent Chalumeau, pour nous livrer une nouvelle pop prescription et nous échangerons aussi quelques considérations autour de votre autre passion commune, la natation. Mais avant cela, Chantal Thomas, ici, il existe une question encore plus tendue qu'une collection de strings. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, hein, j'ai eu des réponses chantalines, thomasiennes, et même waroleuses. Et parmi mes préférées, il y a celle de Patti Smith, citée dans votre livre. Écoutez-la.
Pop culture, it's
la pop culture, c'est un ballon. Vous avez une aiguille et vous piquez le ballon. Il explose.
And then,
et puis,
it forms again.
Il se regonfle.
So, what I'm saying
ce que je veux dire, c'est que la pop culture, chaque génération la recrée.
Bien, voilà pour Patti Smith. Et pour vous, Chantal Thomas, c'est quoi?
Pour moi, c'est le génie de l'ironie et du détournement. Et c'est une sorte de ballon, en effet, qui s'élève. C'est la possibilité de soulever le poids du quotidien. Et c'est presque rien, c'est une pichenette. De rage ou de rire.
Ah, ça me convient très bien, ça.
C'est parfait.
Charline ?
Très bien.
On valide ? Ok. Eh bien, on continue comme ça. La pop, la culture, la pop culture, et plus précisément la pop culture américaine, on va en parler dans la suite de Pop, 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 avec vous, Chantal Thomas, et avec votre nouveau livre, East Village Blues, juste après Last Night, du groupe new-yorkais The Strokes.
Last night, she
le son Made in New York, le New York de 2019, des Strokes avec le morceau Last Night. Cet extrait de l'album Is This It. Vous écoutez l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Chantal Thomas. Avec cette Chantal Thomas, on va parler plus de feuilles que des feuillages, bien sûr. La preuve avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, c'est votre portrait, Chantal, mais... À base de pop. Et il est signé Charline Rourou.
Aujourd'hui, une invitée qui a l'évocation du nombre 18, contrairement au commun des mortels, ne pense ni à l'âge de la majorité, ni à l'arrondissement parisien si typique pour sa butte, ni même au cinéma de genre frappé d'une interdiction pour ceux qui n'auraient pas atteint la dite majorité. Là, je parle pour Ghislain Fontanus, notre réalisateur. Non, une invitée qui, au nombre 18, appose le siècle, car c'est une de ses spécialistes, une invitée 18e-iste incollable sur Sade, sur Casanova, littérature probablement déconseillée au moins de 18 peut-être, mais auquel elle consacre des essais et incollable sur Marie-Antoinette, dont il est question dans son roman couronné en 2002 du prix Fémina, Les Adieux à la Reine. Un 18e siècle qui servira de cadre aussi au Testament d'Olympe, à l'échange des princesses, et comme notre invitée est aussi voyageuse, et pas que dans le temps, ce n'est pas du 18e dont il sera question aujourd'hui, mais plutôt des années 70, enfin des années 70 de 1900, et de New York, et plus précisément de son East Village, mais alors ôtez-moi d'un doute, la 18e elle n'est pas dans l'East Village, à New York.
La 18e Non, justement, ouais. C'est ça qui est génial. Il manque juste la 18e.
C'est un regret.
Ben un peu, mais bon, on peut l'inventer.
Inventons-la, Chantal. Alors, Chantal Thomas, je le disais en intro, vous avez une passion pour les voyages. Eh bien, je vous propose un petit voyage sur notre planète pop. C'est l'heure de votre pop-list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un film, une série, une musique et quoi d'autre ? Et une musique et un film, non ? Et un livre aussi.
Série et un livre.
Oui, c'est ça. Alors pour le livre, vous avez choisi Claudine à l'école de Colette. Charline, on est loin, n'est-ce pas, de la célébrissime série avec une autre héroïne féminine, la petite Martine. Martine fait du ski, Martine va à la plage, etc. etc.
Bah, alors disons que la vie de Claudine est un peu plus sensuelle que celle de Martine et ses activités ménagères et sportives. Claudine a 15 ans, elle est intelligente, elle est séduisante, elle va vivre une année scolaire pas banal aux côtés de ses camarades, de la directrice de l'école, de sa jolie adjointe et des deux instituteurs garçons. Ils vont vivre une année particulière.
Bien.
Trois petits points.
Chantal Thomas, avant de nous dire pourquoi vous avez choisi ce livre, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un extrait, s'il vous plaît ?
Je n'ai jamais eu de camarades de mon espèce, car les rares familles bourgeoises de Montigny envoient, par genre, leurs enfants en pension ou chef-lieu. De sorte que l'école ne compte guère pour élèves que des filles d'épiciers, de cultivateurs, de gendarmes et d'ouvriers surtout. Tout ça assez mal lavé. Moi, je me trouve dans ce milieu étrange parce que je ne veux pas quitter Montigny. Si j'avais une maman, je sais bien qu'elle ne me laisserait pas 24 heures ici. Mais papa, lui, ne voit rien, ne s'occupe pas de moi, tout à ses travaux. Et ne s'imagine pas que je pourrais être plus convenablement élevée dans un couvent ou dans un lycée quelconque. Pas de danger que je lui ouvre les yeux. C'est merveilleux, non ?
C'est merveilleux, mais et c'est un choix qui m'a un peu étonné. Parce que, Charline le rappelait, vous êtes une grande spécialiste du 18e siècle, des auteurs sulfureux, des Sade, des Casanova et compagnie. Et nous voici avec Colette et sa Claudine à l'école. Pourquoi ce choix ?
Moi, j'ai lu Colette avant de lire Casanova. Mm-hmm. Et j'ai lu, quand j'avais 15 ans, j'ai lu Claudine à l'école. Et j'ai été définitivement ravie par l'idée que quelqu'un de 15 ans pouvait être l'héroïne d'un roman, et aussi très émue, et même je trouve érotiquement émue, aussi fortement que par Casanova ou Sade, par la sensualité de chacune de ces phrases et par leur ambiguïté. Je trouve qu'elle a un génie de la langue qui continue de m'irriguer, si je puis dire.
C'est un livre que vous avez lu à 15 ans.
Je continue.
Et qui continue à vous accompagner aujourd'hui.
Ah oui, complètement. Ouais. Mais complètement. Mais tout Colette, il faut dire. Vraiment. Je trouve qu'il y a peu d'écrivains aussi proches du plaisir de vivre et de la ténuité de chaque instant.
C'est joliment dit. Très bien. Pour le film, Chantal Thomas, vous avez choisi « E la nave va » et « Vogue le navire » pour les moins italiens de nos auditeurs. C'est un film de 84 signé Federico Fellini. Charline, « E la nave va », c'est un titre qui pourrait s'appliquer à beaucoup de films, mais certainement pas à celui-là.
Pensez à qui précisément, Antoine ?
La liste serait...
Non, allez-y, je vous laisse le... Non, vous voulez pas. Le film de Fellini se déroule à Naples en juillet 1914 et le navire qui s'apprête à voguer est un paquebot sur lequel est embarqué le gratin européen de la musique et de la diplomatie. ainsi qu'un rhinocéros, et ils accompagnent les cendres de leur ami, la célèbre diva Edmé Tatua, qui vont être dispersées.
Bien, écoutons un extrait de la scène dans laquelle les passagers jouent du Schubert avec des verres en cristal pour hypnotiser une poule. J'avais déjà tenté de jouer du Schubert avec des verres en cristal pour hypnotiser des poules, Chantal Thomas.
J'ai jamais tenté quoi que ce soit musicalement. Je sais pas jouer. Sinon, j'aurais pas manqué de vouloir hypnotiser une poule.
Alors pourquoi ce film de Fellini ?
Mais pour ça précisément, pour son rapport délicieux à l'absurde et au côté renversant de la beauté et de l'imprévu du monde, et pour ce regard d'enfance qu'il a jamais quitté. Et qui nous rend aussi sensibles à l'apparition d'une géante, qu'à justement une poule en train de fermer les yeux, ou à des rois improbables. Je pense aussi à la Dolce Vita. C'est quelque chose entre la jouissance d'exister et une très profonde mélancolie, parce qu'il y a un sentiment de la fin.
Bien. Alors j'ai un livre, j'ai un film, j'avance dans votre pop-list avec la série. Alors voilà, en pleine frénésie de Game of Thrones, nous vous avons demandé de choisir une série et à la surprise générale, vous avez choisi ceci. Ben rien. Rien, pas de choix. Alors pourquoi ce choix, ou plutôt ce non-choix, Chantal Thomas ?
Parce que tout simplement, c'est la vérité, j'avais pas de série culte. Je regarde pas beaucoup la télé et voilà.
Il y en a pas une qui se détache en particulier. Vous n'êtes pas très amateur de séries.
Je suis pas accro.
Bon, d'accord. Et si moi je vous propose la série de Martin Scorsese, Vinyl, sur le New York des années 70, qui colle de très près au New York dont il est question dans votre livre, ça vous va ?
Je suis vachement contente.
Bon, alors petit extrait. It's fast. It's dirty. It smashes you over the head. That's rock and roll. Ça vous donne envie ?
Oui.
Oui.
C'est assez fort, non ?
Oui, c'est assez fort. C'est Vinyl. Je crois que le premier épisode a été réalisé par Scorsese.
Il y a Jagger à la création aussi.
Et Mick Jagger, à la production de cette série. Très bien. Alors, Chantal Thomas, terminons cette pop-list avec votre chanson culte. Et cette chanson, c'est celle-ci. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. Told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you? Chelsea Hotel No. 2, Leonard Cohen, c'était en 1974. C'est le chanteur ou bien la chanson qui détermine votre choix, sachant qu'on parle ici de l'hôtel mythique dont il est largement question dans votre ouvrage?
C'est tout, là, c'est le chanteur. J'aime tout, Leonard Cohen, vraiment. Et cette chanson en particulier, qui est dédiée à Janis Joplin, et puis le Chelsea Hotel. Les trois ensemble, ça donne envie de... C'est bouleversant.
Le fameux Chelsea Hotel, qui a bien changé. Je sais pas si vous y êtes retourné. Oui, il n'y a plus rien à voir. Bon. On va parler de ce New York-là et du Chelsea Hotel dans quelques instants. Et pour l'instant, je résume votre pop-list. Federico Fellini, Colette, Leonard Cohen, et rien, enfin rien, la série de Scorsese, hein, quand même, Vinyl. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça. It's fast.
It's dirty. Si j'avais une maman, je sais bien qu'elle ne me laisserait pas 24 heures ici. Mais papa, lui, ne voit rien. It smashes you over the head. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's rock and roll. You were famous, your heart was a legend.
voilà ce qui se promène dans la tête de Chantal Thomas en ce 7 mai 2019. Ça vous convient?
Oui. Oui, ça me convient très bien.
Vous y retrouvez?
Ah oui, surtout de terminer sur la voix de Cohen. Mmh.
Bien, Chantal Thomas, avant d'aller à New York, au cœur du East Village, je vous propose de mettre, comme dans les années 70, vos écouteurs, de prendre votre crayon à papier pour rembobiner la cassette du Velvet Underground avant de la mettre dans votre Walkman. Voilà, ça y est, c'est rembobiné. Voilà, maintenant on peut appuyer sur Play pour écouter I'm Waiting for the Man.
Shout. I'm
I'm Waiting for the Man dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau de 1967 signé du Velvet Underground. C'est extrait de l'album The Velvet Underground and Nico, un album à la pochette mythique signé Andy Warhol. Ça vous fait quoi d'entendre ça aujourd'hui, Chantal Thomas ?
Ça m'atteint de la même manière. J'ai une sorte de... Je suis un peu comme... Je vis plusieurs temps en même temps, mais celui-ci m'est particulièrement proche. Et c'est surtout l'énergie qui s'en dégage, qui, je trouve, continue d'agir exactement pareil.
Quelle énergie que vous avez donc trouvée à New York, oui, à cette époque-là ?
Dès que j'y ai posé un pied.
Votre premier contact avec New York, c'était ça ?
Oui, c'était... Je rentrais du Pérou, où j'étais allée en stop avec mon ami. Et on a passé une nuit, là, une nuit un petit peu catastrophique. Mais loin, ça ne nous a pas du tout découragés. C'est surtout moi, ça m'a donné envie d'y revenir. Et c'est surtout parce que j'étais à Staten Island et j'ai vu la ville se dresser devant moi, à l'aube. Et ça, c'est comme dans les... c'est un peu comme dans Fellini. Ces apparitions qu'on ne peut plus jamais oublier.
Vous venez nous présenter aujourd'hui votre nouvel ouvrage, East Village Blues. C'est édité au Seuil, Chantal Thomas. Malgré le blues présent dans le titre, ce n'est pas du tout un livre nostalgique.
Non, j'ai choisi ce titre beaucoup en hommage à Kerouac pour Mexico City Blues, que j'adore.
Cet affreux macho.
Oui, mais ça ne me gêne pas. Il y a ce que font les gens au lit, etc. Et puis ce qu'on dit.
Je ne fais que vous reciter, hein. C'est pas moi. Donc c'est pas du tout un livre nostalgique.
Non. Il n'est pas nostalgique, mais il trace quand même une frontière très nette entre quelque chose qui a eu lieu, un temps, une époque vibrante, et l'actualité qui est du côté des petites boutiques mignardes et des hôtels hyper luxueux. Donc il n'est pas nostalgique, mais il est net.
Alors si c'est pas un livre nostalgique, c'est un livre qui éveille une nostalgie certaine pour un New York a jamais disparu. C'est un New York que vous regrettez, et si oui, que regrettez-vous du New York de cette époque-là, celui des années 70 ?
J'ai eu envie dans ce livre de vraiment célébrer une rencontre entre une énergie de poésie, une sorte de passion, de créativité, de musique aussi, et dans la scène emblématique était Saint Mark Church, et des gens qui étaient là, immigrés, de pays différents, et qui, chacun avec leur culture, continuaient de faire exister un esprit, une âme, des rythmes. Et en arrivant là, j'ai eu le sentiment à la fois d'être dans le cœur de New York, de l'histoire de New York, et au bord du moment où on trouve des nouvelles musiques, des nouvelles manières de se représenter. Et aussi, il y avait quelque chose de beaucoup plus ouvert sur le désir, de beaucoup plus direct dans le geste. J'ai découvert les boîtes lesbiennes beaucoup plus intenses qu'à Paris.
Le fameux Bonnie and Clyde.
C'était formidable. Oui.
Est-ce aussi dans un souci de témoignage que vous avez souhaité que ce livre soit illustré par les photos de votre ami, l'écrivain américain Allen S. Weiss ?
Oui, parce que ce que j'ai
trouvé... Pour témoigner de cette évolution, en tout cas.
Voilà, exactement. Parce que d'abord, c'était une manière de faire surgir à la fois des mots qui préservent, ou en tous les cas font continuer de faire vivre une époque disparue. Et par ces photographies flamboyantes et déchirées et déchirantes, Allen perpétue le temps où ces rues parler, où ces rues disaient quelque chose. Et où, entre les gens qui marchaient, qui allaient danser, qui allaient travailler, et les murs, il y avait une connivence. Il y avait des voix et des couleurs.
Vous avez l'impression que les rues ne disent plus rien aujourd'hui à New York ?
Les rues sont très, très, très... elles sont très bien nettoyées.
Ouais.
Ce qui n'était pas... C'est vrai que c'était ces années 70... 75, ce n'était pas un sommet dans l'hygiène.
Non, on ne peut pas dire. Ça serait exagéré.
Ce que vous racontez d'ailleurs très bien quand vous parlez des différents logements que vous avez occupés là-bas.
Oui, East Village, c'était vraiment... D'abord, il y avait j'ai eu cette découverte des appartements, on disait Railroad Apartments, des appartements tout en longueur, qui étaient d'anciens appartements de gens vraiment pauvres. Et c'était à l'intérieur de ça qu'il y avait des fêtes fracassantes. Et quand on débordait, on montait sur les toits.
Et à propos du titre, il y avait énormément à l'époque de cafards hein, à New York.
Énormément.
Vous l'avez appelé East Village Blues, ça aurait pu être East Village Cafard, en fait.
Oui, mais alors là, le cafard, c'est franchement noir. Hein.
Vous aimez alterner fiction, la fiction, et puis depuis Café de la Mémoire en 2008, travailler une veine autobiographique. Est-ce que East Village Blues, c'est exactement à la croisée des chemins?
Oui, mais presque tous sont à la croisée des chemins. Mais surtout celui-ci, puisqu'il est... Mais Souffrir, qui est aussi autobiographique et de livre, c'est exactement la même idée. Mm-hmm. Je trouve que lire est un événement existentiel aussi fort qu'une rencontre avec quelqu'un. Et donc j'aime dans mes livres et dans des livres intimes que les livres, que la voix de Kafka ou de Ginsberg ou de Patti Smith innerve ce que j'écris. Mm-hmm. C'est aussi proche que des histoires d'amour.
Patti Smith, dont on parlait il y a quelques instants hein, en écoutant la musique, qui est devenue une véritable écrivaine.
Oui.
Oui.
Ah oui, je l'aime vraiment. Et moi, j'adore les cafés. Et quand j'ai lu, je crois que c'est dans M. Twain, qu'elle parle de sa passion pour les cafés, et en particulier mmh. qu'elle voulait elle-même ouvrir un café dans East Village, justement, mmh. Café Nerval.
Mmh. East Village Blues, c'est une plongée dans le New York que vous avez connu, dans lequel vous avez vécu, un récit qui va et vient entre 1976 et 2017, un New York qui vous a transformé. À quel point est-ce que ce New York-là vous a transformé, Chantal Thomas?
Alors, sur le moment, j'ai évidemment, comme dans les vrais moments intenses, on ne sait pas du tout ce qui vous arrive. Donc, je ne pensais pas grand-chose de ce qui m'arrivait. Je ne faisais que m'abandonner aux rencontres, aux occasions. Et c'est surtout en écrivant le livre que tout d'un coup, j'ai vu avec une netteté extraordinaire le contraste entre ce que j'avais vécu ici, qui était vraiment du côté... je travaillais dans le séminaire de Roland Barthes. Mmh. J'étais toute entièrement dans l'emprise et sous le charme de sa voix, qui c'était une voix feutrée, tout en nuances, proustienne, ou du côté de la mélodie française. Donc moi j'étais vraiment dans cette articulation sobre, mesurée, du côté de l'art classique. Il disait qu'il aimait les textes de plaisir, mais non les textes de jouissance. Mmh. Et alors en passant à New York, alors là c'était abrupto les textes de jouissance. Adieu les mises en scène velouté, c'est plus du tout ça.
Et c'était quelque chose de très jouissif à l'époque pour vous?
Ah oui.
Aussi jouissif oui. que surprenant?
Oui. Et puis en plus, je me disais, j'ai vraiment toutes les chances, puisque j'ai vraiment ce bagage du plaisir, des textes de plaisir, et j'arrive là avec la déchirure.
Mais c'est-à-dire que New York est un endroit dans lequel vous dites, je vous cite, vous avez commencé à respirer. C'est-à-dire c'est à rebours en écrivant ce livre que vous vous êtes rendu compte que peut-être avant vous suffoquiez ou quelque chose de cet ordre-là.
Non, pas du tout. Non, je respirais très très bien. Oui. Surtout que j'ai grandi au bord de la mer.
Mais
j'ai
encore
pas
plus
du tout
là-bas.
De problème respiratoire.
Mais mieux là-bas.
Mais là-bas, beaucoup
étrangement.
Mieux.
Oui. Et pourtant, le rapport est très ambivalent puisque l'endroit vous ôte à la fois un poids, et vous le disiez tout à l'heure, les premiers contacts, notamment de nuit, avec la ville, n'ont pas été, ont été plutôt houleux, pour pas dire terrifiants. En fait, le récit d'une nuit en particulier, qui aurait vite fait de refroidir le premier voyageur.
Oui, je suis allée dans un hôtel, j'étais avec une amie, et on a essayé de forcer la porte. Mais comme ça, j'ai su tout de suite où j'étais. Ouais. Et ensuite... constamment, mais tous les personnes qui habitaient à New York dans ces époques le savent, c'était très risqué. Il y avait énormément d'attaques et les gens marchaient. Moi, j'étais toujours été frappée par le pas des New Yorkais, mais ils marchaient très vite aussi pour rentrer vite chez eux. On traînait pas la nuit.
Mais pour autant, vous ne vous êtes jamais senti en péril?
Si.
En danger, mais pas au point de repartir aussitôt.
Oh, bah surtout pas. Non, surtout pas. Parce que ce danger, je pense aussi que ça rendait. Maintenant, par exemple, il y a une sécurité extraordinaire dans New York. On n'a plus peur. Ça, c'est comme quand j'arrive, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. La peur. Et je crois que vivre dans cette peur, en tous les cas, dans cette idée que la nuit. Parce qu'il faisait beaucoup plus de nuit aussi. Ça, on oublie. Et c'était vide. Il n'y avait pas de touristes. Les rues étaient vides. Ça, c'est quand on voit les photos, c'est très très frappant. Cette espèce d'excitation, de peur, faisait partie aussi de l'excitation d'être vivant.
Je reviens quand même sur la question que vous posez, Charline. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites vous avez commencé à respirer à New York?
À ce moment-là, je me suis dit je respire mieux, au sens je pense que j'étais plus à l'aise. Je me suis dit plus clairement que j'avais envie d'écrire, de danser, mais je le faisais avant. Pas d'écrire, mais de...
Et à New York aussi, où vous découvrez le féminisme américain, c'est aussi un endroit où se préparent toutes les luttes militantes à cette époque-là. Donc c'est un endroit aussi très, très structurant.
Oui, ce qui m'a étonnée, mais ça étonne tous les gens qui passent de la culture française à la culture américaine, c'est le relief des choses. De même qu'il y a une lumière particulière à New York qui est très éclatante et que les lignes sont vraiment tranchées. Les mouvements, pareil, les mouvements politiques, pareil, surtout les mouvements de rébellion. Mmh. Et je connaissais le féminisme ici, autour des éditions des femmes, et c'était passionnant. Et en arrivant à New York, un peu par le hasard de ce lien avec Cynthia, cette amie, j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus combatif et, de sa façon, violent. Mmh. Je ne peux pas dire que ça m'a chaviré, c'est elle qui me chavirait.
Et vous avez découvert un immense sentiment de liberté aussi.
Oui, qui était lié à ça, qui était lié à les désirs et surtout la transgression ne se jouaient pas du tout pareil. Et je pense qu'ici, moi j'étais une grande lectrice de Klossowski, j'aimais beaucoup le côté feutré, les non-dits. Et je continue de trouver ça très très fort aussi. Mmh. Hein. Mais aux États-Unis, c'est 4000 aides, c'est des femmes et des hommes qui franchement se jettent comme ça. Et ça m'a plu. C'est peut-être ça que j'ai voulu dire quand je respire. Mmh. Oui. Et aussi, c'était lié à la ville, parce que Paris est franchement dans une sorte de creux. Et New York, c'est l'air. C'est vraiment le vent, c'est ces avenues qui ouvrent sur l'horizon vide. Ça, c'est sublime.
Ouais,
c'est sublime. Ouais.
Vous allez probablement trouver mes préoccupations très terriennes et Antoine va encore dire que ça fait partie de mes obsessions, mais la nourriture a un très fort pouvoir évocatoire dans le livre. Votre récit évoque les rice puddings, les sandwichs d'ex-salade, les ex-bénédicts, les pancakes, les Bloody Mary, les zombies, les marshmallows, les cupcakes. C'est autant de madeleines pour vous ?
Pardonnez-moi, ça ne fait pas un peu partie de vos obsessions ?
Je ne pense qu'à manger, ce n'est pas une nouveauté. J'ai relevé toutes les occurrences dans le livre, donc ça m'a donné faim.
Il faut dire la couvert de victuailles.
Non mais c'est très étonnant, on a l'impression que ça vous ramène à chaque fois à quelque chose de très particulier.
Oui, que j'adorais. Mmh. Bon, moi, j'aimais pas du tout la nourriture familiale. Et dans mon goût des voyages, j'avais découvert des nouveaux plats. Et je sais qu'en Grèce, par exemple, le tarama faisait partie de mon ravissement quotidien. J'aime beaucoup les nourritures blanches et roses.
Mmh. Parfait.
Il y a 40 ans, le Lower East Side était un quartier dangereux, un quartier de braquage, de violence, d'exposition à nu, de la misère, mais coexistant avec quelque chose de désuet, des moments de douceur, des pauses de respiration venues de temps anciens et d'une époque lointaine. Je viens de vous citer, Chantal Thomas. Aujourd'hui, le quartier s'est absolument gentrifié. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de l'âme de l'East Village ?
Elle est, y a des personnes qui résistent. Je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelle Jeremy Moss, d'ailleurs je cite son livre « Vanishing New York », et je pense qu'avec d'autres personnes, ils s'organisent, ils sont comme des résistants, ils sont comme des petites poches de résistance à l'intérieur d'un quartier lavé, où les expulsions se font d'ailleurs assez violemment. Et c'est plutôt les promoteurs qui coupent l'eau, l'électricité, commencent de murer des fenêtres, etc. Mmh. Donc c'est une sorte d'état de guerre larvée et on sait très bien qu'ils sont vaincus à l'avance, mais ils continuent de... Et maintenant, ce qui frappe, c'est l'argent. C'est devenu un des quartiers très chers de New York.
Oui, un des plus chers. East Village Blues, c'est édité aux éditions du Seuil et c'est un texte qui ravira à la fois tous vos fans et puis tous ceux qui aiment New York. Le New York passé, le New York d'aujourd'hui. Chantal Thomas, vous savez faire plein de choses. Est-ce que vous savez faire ça ?
Non, pas une seconde.
Pas une seconde ?
Je ne veux même pas essayer.
Même pas essayer. Ah bah, ouais, c'est franc. Bon, bah, je le refais. Hein. Oh, voilà, c'est pour lancer les pop news.
La réalisatrice de Joula comme Beckham est de retour. Gurinder Chadha s'attache cette fois à l'histoire d'un ado de 1987, soit un petit Briton d'origine indienne vivant en Angleterre sous le gouvernement pas très souple de Margaret Thatcher et qui apprend à vivre, à comprendre sa famille et à trouver sa propre voix grâce à la musique de... Comment il s'appelle déjà ? Peut-être un indice dans le titre du film, Blinded by the Light, et la réponse est donc dans la bande-annonce.
First day, start at the top and stay there. Stay away from the girls.
I want to be a writer, but my family is stuck in another century.
Writing isn't a job. I need you to do more.
Make a wish, beta.
Kiss a girl and get out of this dump.
Bruce is the direct line to all that's true in this shitty world.
Seriously, what does he know about our world?
Bruce.
Ah, mais Blinded by the Light, oui, Jean-Patrick Capdevielle.
C'est ça, c'est lui. Bruce Springsteen.
C'est dur à dire.
Oh, j'arriverai jamais à le dire. En tout cas, le film sortira sur les écrans le 25 septembre.
Quand Justin Vernon ne travaille pas activement à composer des chansons pas très gaies pour Bon Iver, il monte des tribute bands, et c'est ce qu'il a fait il y a quelques jours lors du festival new-yorkais 37D pour s'attaquer au répertoire de Bob Dylan.
Well, it's always been my nature to take chances. My right hand drawn back while my left hand advances. Where the current is strong.
Un festival collaboratif à l'initiative de Aaron Dessner de The National et Justin Vernon, dont l'album commun sous le nom Big Red Machine est toujours dispo et très recommandable.
Message de la plus haute importance, car le caractère pop de l'émission n'empêche pas un certain engagement. 1 million d'espèces végétales et animales sont aujourd'hui en voie de disparition. Dans un spot écrit par Cyril Dion au profit du WWF, Pierre Ninet donne de la voix en leur nom et en anglais.
So today we call on you. And we call on you again. You are part of this chain, nourished by the plants growing out of the soil, watered by fresh water filtered by the trees, the lungs full of the oxygen they exhale. If we disappear, you will disappear as well.
Et oui, si ça disparaît, ben nous c'est pareil. Pour apporter votre contribution et tenter de stopper ce qui tient du massacre, voicefortheplanet.com.
France Inter. Pop pop pop. Antoine de Caunes.
Yes, it's me.
Oh, Bruce Springsteen.
Non,
ah, je dis bien là.
Pierre Ninet en anglais.
Non. Absolument not. Hein.
Merci Charline, Chantal, Thomas. Ne bougez pas avant d'accueillir Laurent Chalumeau. On reste aux États-Unis avec le boss, justement. Oui. Et son tout nouveau morceau, Hello Sunshine.
Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Thank you.
Hello Sunshine, c'est un morceau signé Bruce Springsteen, évidemment. C'est extrait de l'album Western Stars qui sortira le 14 juin prochain. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture.
Un nouvel album.
Oui, de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Chantal Thomas et vient de nous rejoindre une autre Western Star, Laurent Chalumeau. Bonjour Laurent.
T'as pas eu ton effet.
Ça y est, il est passé.
Ah, je l'ai pas entendu.
Alors les portes jartelles, c'est aussi parce que vous pensiez que nous recevions Chantal Thomas, la créatrice.
Tout à fait, oui. Et la guêpière, heureusement que...
Vous les portez bien mieux que moi, hein, je veux dire.
Alors, il y a plusieurs points communs entre vous deux, en dehors bien sûr de l'écriture, notamment New York, que vous avez bien connu dans les années 70, Chantal, et vous dans les années 80, Laurent. Un New York qui vous a autant marqué, Laurent, qu'il a marqué Chantal.
Ah oui. Ah oui, oui.
Et qui continue.
Bah, c'est-à-dire que là, je commence à cicatriser. Et puis en plus, d'après ce qu'on me dit, le centre de gravité de New York s'est déplacé. C'est-à-dire que quand moi j'y habitais, à part pour aller dans un restaurant qui s'appelait Peter Luger ou aller faire ses courses tout en bas de Brooklyn, à Brighton Beach, on n'allait pas à Brooklyn. Il n'y avait pas vraiment de raison. Or maintenant, c'est là censément que ça se passe. Et le East Village, qui était un endroit dans lequel on pouvait se suicider. Enfin, c'est-à-dire quand on avait assez de l'existence, il existait un truc.
On pouvait
le répertorier sous le label Suicide by East Village.
Ouais.
Maintenant, en fait, c'est un shopping mall, on entend parler français. Enfin, je veux dire, c'est une abomination. Moi, j'ai connu la queue de comète, si j'ose dire, de East Village dans les années 80. Quand on allait dans ce qu'on appelait Alphabet Jungle, donc l'avenue A, B, C, D, on faisait gaffe, surtout à partir d'une certaine heure. Alors, c'est vrai que c'était un frisson que maintenant on peut trouver canard. À l'époque, on se chiait vraiment dessus parce que c'était vraiment risqué. Il y avait vraiment moyen de se faire tuer. Mais en même temps, je comprends très bien ce que vous dites en disant, quand on arrive à New York maintenant, il manque un truc parce qu'on sait que, a priori, c'est safe, quoi. Alors, il ne faut pas y arriver à certaines dates quand il y a deux tours qui s'effondrent. Mais sinon, le reste du temps, c'est vrai que c'est assez pacifié.
Bien. Laurent,
parce que personnellement, j'aime beaucoup, je dois dire.
Aujourd'hui, c'est d'un livre au titre plein de promesses que vous venez de parler, qui s'appelle Satan dans
le désert. Absolument. J'aimerais vous signaler la réédition aux éditions Gallmeister.
Satan en un seul mot, n'est-ce pas ?
Satan, tout à fait, comme Seren, Shaitan, d'un roman intitulé donc Shaitan dans le désert de Boston Terran. En anglais, ça s'appelle God is a Bullet, donc Dieu est une cartouche. En français, Satan dans le désert, ce qui convient très bien aussi. L'idéal lui était Voyage au bout de l'enfer, mais c'était déjà pris. C'est un livre, voyez-vous, face auquel il n'y a pas de mots.
Allons.
Ah non. Tous ceux qui viennent à l'esprit vont paraître forcés, exagérés, bidons, et en même temps, quand bien même ils paraîtraient bidons, ils seront en dessous de la vérité. Alors là, ce que je commence à avoir, d'avoir été cramponné et brutalisé à ce point pendant la lecture d'un livre. C'est une expérience tout à fait unique, on a l'impression de faire 12 rounds face à Mike Tyson, du coup on en sort avec des bleus, mais c'est juste épatant. Comme je l'annonçais, moi, je m'avoue vaincu. Je suis incapable de trouver les mots. Mais sur Internet, il y a des lecteurs qui essayent et qui, ma foi, y arrivent. Comme cette lectrice qui dit, je cite, « Ça, c'est ce qui s'appelle une lecture coup de poing uppercut. Assurément, âme sensible, abstenez-vous d'ouvrir pareil livre. Vous le refermeriez bien vite. Ce roman est donc à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est pour cela que je ne le conseillerais qu'aux lecteurs avertis. » Sauf que plus bas, sur la même page du site Babelio, un lecteur rectifie. Satan dans le désert, ce n'est pas un roman coup de poing, c'est un coup de feu. La détonation s'entend à la première page lue, la balle traverse les chairs au fil des chapitres et touche en plein cœur à l'ultime phrase de ce récit magnifique. Fin de citation.
Ah bah dis donc.
Récit magnifique, soit, mais qui raconte quoi ?
Oui.
Je sais pas, je vous lis la cut de couve. 1995, aux confins du désir, désert californien, Gabi, 14 ans et qui...
Ouais, c'est Chantal, vous trouvez, Laurent, je crois.
Et kidnappé par un psychopathe ultra...
Allez-y.
Ça y est. Allez, bon. ouais, le retour.
Allez-y. Donc,
Gabi, 14 ans, qui...
Allez.
Kidnappé par un psychopathe. Ultra vieux. Je sens que vous n'allez pas m'aider.
Ah,
et sa secte satanique. Mm-hmm. L'insondable scène de carnage laissée par les ravisseurs ne livre aucun indice. La police patine. C'est abominable. Fou de désespoir, son père, Don Hightower, le flic local, se voit obligé de faire confiance à une... Non,
je comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe?
Je crois que c'est une histoire d'enlèvement.
Une ancienne adepte du culte, Tessardine. Une ex-junkie.
Je tente une traduction, je crois qu'il s'agit d'une histoire de kidnapping sur fond de secte.
De Satan dans le désir. Voilà.
Oui. Bon, leur quête commune ne tarde pas à se transformer en une traque sauvage.
Enfin.
C'est pas moi qui parle d'une quête de couverture.
Oui, pardon. Donc,
une traque de couve marquée par la drogue et la violence qui les oblige inexorablement à regarder le diable dans les yeux. Fin de quête de couve.
Très bien.
On l'a compris.
Analyse.
C'est une poursuite à travers le désert. C'est un road movie aussi radical que Mad Max dans le genre, mais en infiniment moins baroque et du coup beaucoup moins flippant.
Mm-hmm.
Parce qu'on est dans le désert américain, certes, mais pas le désert majestueux, mirifique et métaphysique de Monument de Valais. Non. Je le voyais venir, donc. Le vieux couple, c'est atroce, c'est sordide. Non, on est dans le désert hard et crade de la frontière mexicaine, uniquement peuplé de quelques détritus humains qui croupissent dans des caravanes abandonnées. On le traverse donc en compagnie d'un tandem délicieusement improbable, mal assorti et contre nature. Le flic planqué, inepte et pantouflard, et l'ex-junkie dessalé, quelque part entre la Tanger de Jamie Hewlett et la Lisbeth de Millennium. C'est un bonheur de voir leur défiance réciproque s'atténuer et des liens se tisser entre eux. La punkette badass des Vergondes réveille l'adulte jusque-là dépassé par les événements. Et en retour, le père léthargique et démissionnaire réussit quand même un peu à apaiser sa coéquipière écorchée vive. Il faut préciser que dans le cours du récit, leur statut de héros ne les protège en rien.
Ah bon ?
De rien. Au contraire, le fait qu'ils soient les personnages principaux semble justement signifier qu'ils vont dérouiller, comme si c'était le prix à payer pour le privilège de tenir le premier rôle. Du coup, puisque le danger est réel pour les personnages, subliminalement, il le devient également pour le lecteur. Mmh. Si je récapitule, nous avons donc un décor propice. Oui, vous m'avez regardé. Un décor propice au roman noir et au western moderne. Un couple de héros intéressant et un enjeu puissant. Oui, car sauver une adolescente d'une secte de tarés, c'est un enjeu puissant. Enjeu qui d'ailleurs renvoie tous les parents à leur pire peur, l'incapacité à protéger leurs enfants. Et enfin, nous avons un méchant porté au paroxysme de la malfaisance. Un ado désaxé et cruel, une espèce d'incarnation précoce et surdouée du mal absolu qui fait passer Charles Manson pour l'abbé Pierre. Un déglingo qui n'aime rien autant que le viol et les tortures pédophiles, mais qui peut aussi mal se comporter avec les adultes au besoin. Tout ça est servi par une écriture appropriée, un présent de narration à la fois lyrique et amphétaminé, très efficace dans les nombreuses scènes d'action et le reste du temps gorgé de références culturelles pop. C'est le moment de dire un mot de l'auteur au nom étrange, Boston Terran. Oui, un mot, pas plus, car c'est un auteur dont on ne sait rien. On ignore s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, d'un ou de plusieurs intervenants, tant les différents titres publiés sous ce pseudonyme affichent des différences de ton et des variations de qualité. Une chose est sûre, aucun n'égale l'intensité et la puissance de celui-ci. Pour conclure, vous allez être content, je redonne la parole à cette lectrice qui écrit en ligne, je cite, « Alors, si vous adorez les cocktails, violence mélangée à de la poudre de fusil, additionnée de drogue, sang, viol, torture, le tout macérant dans du mescal avec une touche de tabasco pimenté, foncez. » Fin de citation, et pas mieux, elle a raison, foncez. Satan dans le désert, Boston Terran, édition Gallmeister.
Merci Laurent, pour un livre qui laisse sans mots, vous en êtes plutôt bien sorti.
Non, mais c'était les mots des autres.
Boston Terran, vous aviez déjà entendu parler, Chantal Thomas?
Non.
Bon, et ben voilà, une information capitale et un livre qui
est. Je suis assez soufflé là.
Oui. Laurent vous a donné envie de lire, j'espère.
Oui,
Vous avez suivi un peu l'intrigue. Aussi bien que nous. Bien, alors pour se remettre de toutes ces émotions, et ben un petit Gainsbourg, tiens, allez, un millésime 64 New York. USA.
J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai J'ai jamais rien vu d'eau. J'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York. New York USA, Empire State Building. Rockefeller Center. International Building. Waldorf Astoria. Pan American Building. Bank of Manhattan. Americana Hotel. CBS Building. RCA Building.
New York USA dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau signé Serge Gainsbourg et c'était en 1964. Voilà, c'est ici que les Athéniens s'atteignent. Merci Chantal Thomas, merci d'être venu dans notre studio. East Village Blues, c'est édité aux éditions du Seuil. Merci Laurent Chalumeau. Très vite, j'espère.
J'ai entendu.
Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Elisabeth Collet, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Kéliane Yousfi, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, une invitée dont nous n'avons pas le droit de dire le nom. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuval à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Laurent Chalumeau à la fin de ses tutos, comment enfiler son slip de main avec élégance sur YouTube, abonnez-vous à... Ah, c'est serré. À notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.